Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
I'm sorry, miss. I can't have you holding one of my people hostage.
Even if you pull the trigger, I can still take him out. And you.
Come on, Willie, she means it.
Miss, you're not getting the point. I can't have you holding one of my people hostage.
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux années 80. Tout d'abord avec une série de films sortis chez Elephant Film, réunis sous un label, donc un peu années 80, en fait, où les films ont surtout en commun d'avoir tous été réalisés durant, et surtout d'être sortis durant les années 80. Donc il va y avoir Where the Buffalo Roam de Atkinson, L'homme dans l'ombre de Jack Fisk, Goonies de Luca Bercovici, Ça chauffe au lycée Ridgemont d'Amy Eckerling et BMX Bandit de Brian Trenchard Smith. Et puis, nos amis de Rimini Éditions nous ont aussi sorti un film qui jouit d'un certain culte, hein, un film des années 80 également, un film de Tom Eberhart qui s'appelle La nuit de la comète, donc on a décidé également de l'intégrer à cette émission spéciale années 80. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer années 80, je suis accompagné de celui qui n'était même pas né dans les années 80. Et voilà, qu'est-ce que c'est beau. Alors que moi j'étais au collège, c'est horrible. La vieillesse, est-elle un naufrage? Grande question que nous aborderons dans une prochaine émission. Je veux bien sûr parler de notre ami Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, alors là c'est pareil, quelqu'un comme moi qui a grandi dans les années 80, voilà, et qui est devenu lycanthrope d'ailleurs, il s'est fait mordre à cette période, hein, paraît-il, en regardant une série sur M6 qui s'appelait La malédiction du loup-garou. Donc je veux bien sûr parler de Thomas Roland, le loup-garou picard qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Thomas, waouh!
Bonjour Gégé, bonjour Damien et bonjour à toutes.
Je voulais qu'il me fasse son cri de loup-garou, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Commençons cette émission par un film qui jouit véritablement d'un culte, hein, un film de 1984 qui s'appelle La nuit de la comète, un film de Tom Eberhart avec Catherine Mary Stewart et Kelly Maroney. Bon, La nuit de la comète, ça pourrait être, hein, voilà, comme plein de films, un petit post-apo bien sympa, comme on a eu dans les années 80, avec des trucs qui rigolent pas du tout à la Mad Max, quoi, voilà. Mais non, c'est un post-apo un peu particulier. Pourquoi ? Alors, ça raconte quoi ? C'est... Voilà, on est dans l'Amérique des années 80, et puis on a, deux sœurs. Alors, il y en a une qui s'appelle Regina, alors qui est très jolie, hein, Catherine Marie Stewart, c'est qui a vraiment un physique des années 80, c'est-à-dire qu'elle est très sculpturale, elle a un corps de fitness, quoi. Voilà, c'est vraiment, le portrait type du fantasme des années 80. Et puis paradoxalement, il y a sa petite sœur qui est interprétée par Kelly Maroney, qui s'appelle Samantha, et qui elle a un côté, et je pense que c'est absolument volontaire dans le film, puisque le film joue avec ce contraste aussi et les notions d'hommage. Elle a un côté très pin-up des années 50. Un petit peu à la Marilyn ou même à la Jane Mansfield, petite blonde pulpeuse, et elle a vraiment cet aspect très années 50. Après, toutes les deux partagent un truc commun aux années 80, c'est-à-dire des coiffures assez improbables. Mais ça, c'était les années 80. Voilà. Et donc, ces deux sœurs vont faire partie de survivantes à un truc qui va se passer. Donc là, on est en 84. Quand même, je pense que les gens en 1984, ils auraient dû se douter de quelque chose. Parce qu'il y a une comète qui passe, et on leur dit, la dernière fois que cette comète allait passer, c'était il y a 65 millions d'années. Ben tiens, c'est quand les dinosaures ont disparu. Voilà. Et là, elle repasse. Et donc évidemment, ben, tout le monde fait la fête. Et bien voilà, ben, tout le monde finit mort, en poussière, disparaît. Et il ne reste pratiquement plus que quelques survivants. D'ailleurs, au départ, pour nous, il n'en reste que deux. Ce sont ces deux sœurs. Pourquoi ? Bah parce que la petite sœur, fâchée avec sa belle-mère, était partie s'enfermer dans la cabane de jardin. Donc, elle n'a pas été exposée aux radiations de la comète. Et puis, parce que de l'autre côté, la grande sœur, donc Regina, elle travaillait au cinéma, et puis elle a passé une nuit d'amour torride avec le projectionniste. Voilà. Donc, du coup... les deux femmes, enfin les deux jeunes femmes, font partie des survivantes. Et évidemment, le film va développer, moi ce que j'aime bien, c'est quelques belles idées. Alors il fait clairement écho au film de SF des années 50. Alors il y a ce personnage de la petite sœur, il y a aussi le rôle de la radio. C'est-à-dire que dans les années 80, je pense qu'on écoutait moins que ça la radio, mais là toutes les infos passent par la radio et pas par la télé. En fait, tout le monde est branché sur la radio revient tout le temps. D'ailleurs, la radio est même un décor du coup de cinéma. La radio va devenir un lieu important du film. Et puis il y a aussi des personnages de scientifiques qui tentent soi-disant de sauver le monde, qui sont clairement des personnages issus de ces films de SF parano un peu des années 50. D'ailleurs, le film a ce petit côté parano. Mais par contre, le film, bon, il est culte pour plein de raisons, mais bon, c'est pas un grand film, mais c'est un film qui a un côté très attachant et qui est porté par un duo d'actrices qui est vraiment un duo d'actrices très attachant, qui fonctionne bien, les deux fonctionnent bien ensemble, et elles se répondent bien. Puis c'est vrai que l'héroïne, là, elle a du peps, elle a un vrai charisme, et elle en impose vraiment. C'est une femme moderne, en plus, c'est elle qui choisit ses partenaires, c'est elle qui dirige, d'ailleurs, c'est une bête aux jeux vidéo. D'ailleurs, le film, pour bien montrer qu'il est dans les années 80, s'ouvre par une scène qui peut évoquer le générique aussi du Piranha de Joe Dante. Hein, voilà, sauf que là, on joue pas à Pong, quoi, on joue à quelque chose d'un peu plus balèze. Mais c'est vraiment, en tout cas, le film est assez, assez sympathique parce qu'il se situe à la croisée de ces films des années 50 et de ces films des années 80, pour donner un peu, en fait, on peut voir l'évolution du teen movie, c'est-à-dire que on confronte un peu deux formes de teen movie, celui des années 50, celui des années 80, à travers les deux personnages de sœurs, là, et ça donne un teen movie typique des années 80, assez drôle. Il faut savoir que, alors évidemment, le film est porté aussi par une chanson culte, hein, qui est chantée par Tammy Holbrook, qui est Girl Just Wanna Have Fun, évidemment, qui revient, Just Want to Have Fun, qui revient dans le film. Et parce qu'il y a aussi des scènes plus légères, hein, des scènes qui sont toujours temporisées d'ailleurs par des scènes plus effrayantes, des scènes où elles vont aller faire des essayages de fringues dans un magasin, tout ça, puis il va y avoir des scènes plus effrayantes derrière. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est La petite histoire indique que Joss Whedon, pour créer le personnage de Buffy, se serait inspiré du personnage de Regina. Voilà, donc c'est le film a donc vraiment pesé dans la culture américaine populaire des années 80 jusqu'à aujourd'hui.
Oui, c'est important de mettre en avant en fait ces deux sœurs parce que c'est rare au final d'avoir une sororité en tant que principale héroïne, surtout dans un film SF. Normalement, on met toujours en avant un personnage un peu solitaire qui se retrouve en position de leader. Et là, on a ces deux personnages un peu côte à côte. Il y a des paysages qui sont assez particuliers. Ben, celui de la radio qui est mi-radio, mi-boîte de nuit. Mais aussi la scène juste après que la comète soit passée où la grande sœur se balade dans la ville et la ville est totalement déserte. Elle est toute seule à moto avec ce ciel rougi par le passage de la comète et par les gens transformant en poussière rouges qui sont restés, et ça fait un peu une esthétique de ville déserte en mode post-apocalyptique, mais ça m'a rappelé un peu Je suis une légende, la version récente avec Will Smith, avec ce côté en fait il n'y a qu'une seule personne qui est restée, qui se balade et qui erre finalement dans cette ville, parce qu'à ce moment-là on ne sait pas encore que sa sœur a survécu. Il y a plusieurs, en regardant le film en fait j'ai eu plusieurs éléments qui m'ont fait penser à d'autres choses, notamment la base scientifique où au départ on ne sait pas que c'est une base scientifique, on voit juste des gens s'enfermer avant que la comète arrive alors que tout le monde fait la fête et à l'extérieur, donc on se doute qu'il y aura un truc un peu particulier. Moi au départ je me suis dit que c'était des gens qui croyaient en la fin du monde liée à la comète et qui partaient se réfugier, mais non, on les voit juste derrière on voit que ce sont en fait des scientifiques. Ça m'a un peu fait penser aux bases qu'il y a dans le jeu vidéo Fallout, mais qui sont pas dans le même sens où c'est des scientifiques qui le créent et c'est pour expérimenter sur des gens, même si dans ces bases, dans la base du film on va aussi avoir de l'expérimentation. Et c'est un film qui m'a rappelé une mode qu'on retrouve plus aujourd'hui mais qui a été assez fort dans les années 80-90, c'est tout ce qui est l'espace et surtout la mode des comètes, parce que vu que dans les années 90, si je me trompe pas, il y a la comète Halley qui va passer, c'est un moment où il y a quelques films qui aiment bien en fait parler des comètes et du ciel en général, bon, hormis le fait que généralement le ciel et l'espace ça va être les extraterrestres. Ici c'est plus l'idée d'un rocher, de quelque chose de naturel qui circule et qui apporte un événement marquant, comme si le ciel était lié à la façon dont la Terre vivait. C'est un film qui est très fun, qui ne se prend pas beaucoup au sérieux, sauf dans quelques situations où les sœurs paniquent, notamment quand la petite fait des cauchemars qui m'ont rappelé les nazis en moins, mais ça m'a fait un peu penser au loup-garou de Londres, vu qu'on retrouve ces forces de l'ordre assez violentes qui essayent de s'en prendre à elles. Oui, c'est un film post-apo, pas totalement porté sur l'humour, parce qu'il essaye de développer son histoire, mais avec des scènes qui sont sympathiques, quoi.
Je trouve que c'est un film qui arrive à bien doser le côté action et comédie. Je trouve que c'est un film qui est plutôt sucré, en fait, avec des couleurs chatoyantes et qui passe bien les années, malgré le fait qu'il soit des années 80. On dit souvent que les films des années 80 vieillissent mal, etc. Mais je trouve que le film se voit bien encore aujourd'hui. Et son réalisateur, Tom Eberhardt, je trouve que c'est un artisan qui fait des films plutôt efficaces, quoi. Et La Nuit de la Comète, pour moi, c'est un bon petit film d'aventure qui se regarde avec beaucoup de plaisir.
Bye.
Vous écoutez Culture Prohibée. Je rappelle que La Nuit de la Comète de Tom Eberhardt, donc cette très bonne série B, est disponible chez Rimini Éditions. À voir de toute urgence avant qu'une comète ne s'écrase sur la Terre, bien évidemment. On va passer de Rimini à l'éléphant au pachyderme avec Elephant Film et un film un peu étrange. Un film avec Bill Murray, l'excellent et un peu trop méconnu à mon avis Peter Boyle, hein, même s'il a fait quelques films connus, mais enfin il n'est pas très connu du grand public, il a une tronche bizarre, il est un peu flippant comme mec et en même temps il a un petit côté attachant mais aussi un petit côté psycho. Voilà, moi je l'aime bien Peter Boyle, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Un film qui s'appelle Where the Buffalo Roam, un film de Art Linson. Donc Art Linson c'est un producteur, hein, c'est plus qu'un réalisateur. Alors c'est un sacré producteur, hein, et producteur de films. Alors, c'est le carton de Car Watch qui va le faire décoller, hein, avec sa BO qui a cartonné et tout. Mais enfin, c'est aussi le producteur de Heat, de Fight Club, des Incorruptibles, le Outrage de Palma. C'est aussi un producteur qui va lancer ou relancer des carrières comme celle de Jonathan Demme, Neil Jordan, Alfonso Cuarón. Donc on peut dire que c'est un type qui a du flair, voilà, que c'est un bon producteur. Et en 1980, Art Linson décide d'adapter en fait plusieurs textes pour les fondre dans un même film, plusieurs textes ben, du fameux, hein, du fameux journaliste, l'inventeur du journalisme Gonzo, hein, l'incroyable Hunter Stockard Thompson, plus souvent appelé Hunter S. Thompson. Voilà. Et ce film essaye quand même, alors c'est quand même compliqué, hein, alors déjà adapter un seul texte de Hunter S. Thompson c'est compliqué, mais alors là, ce film essaye tout bonnement d'en adapter plusieurs, de leur trouver des liens. Et en fin de compte, ce qu'on retient du film, donc c'est trois textes en fait, hein, qui sont mélangés. The Banshee Screams for Buffalo Meat, Stranger Robins in Aztlan, et bien évidemment Fear and Loathing in Las Vegas, qui donnera un Las Vegas Parano bien plus tard de Terry Gilliam. D'ailleurs, plus réussi que ce film-là. Ce film un peu bancal et étrange, attachant, mais très très étrange en fait. Le principal intérêt du film, de cette adaptation casse-gueule, c'est le personnage, non pas de Hunter S. Thompson, c'est le personnage en fait de Oscar Zeta Acosta, qui est donc interprété par Peter Boyle, qui était un type qui a été un avocat de cause perdue, hein, voilà, une sorte de comment dire, une sorte d'émule de Jacques Vergès, mais aux USA, qui a été militant pour la libéralisation des drogues. Bon, faut dire que il était bien copain avec Hunter S. Thompson et que tous les deux ils se défonçaient pas mal, mais qui a aussi été un meneur révolutionnaire, qui a été une sorte d'aventurier marchand d'armes, et puis qui un jour réellement a disparu pour de vrai. Il a disparu. Voilà. Donc, et ce qu'essaye de rendre le film, à travers l'interprétation de Bill Murray, parce qu'en fait, on peut avoir une lecture du film en se disant, oui, voilà, c'est ses rencontres avec Oscar, son avocat et tout ça, mais en fait, on peut aussi se dire que Oscar, c'est un peu son Jiminy Cricket, quoi. C'est un peu son âme damnée. C'est une sorte d'alter ego avec qui il va échanger. Et en fin de compte, à la revoyure, est-ce qu'il est vraiment là, Oscar ? Est-ce que c'est pas lui qui se raconte à travers les souvenirs qu'il a d'Oscar ? D'où la difficulté à adapter, de toute façon, à adapter Hunter S. Thompson, qui est quasi inadaptable. Hein. Il a fallu la folie de Terry Gilliam pour faire Las Vegas Parano, quoi. Mais le film, donc, il est assez étonnant. Il n'est pas très connu. Hein. La musique est de Neil Young, la musique est superbe. Neil Young au top de sa forme. Et on a un Bill Murray qui est un peu en roue libre, quand même, avec un côté très... son époque SNL, quoi, enfin Saturday Night Live. Moi, le regret que j'ai, c'est que la mise en scène, elle est trop sage, en fait. Elle est trop appliquée. Art Linson, très bon producteur, n'est pas un grand réalisateur. C'est propre, c'est bien mis en scène, mais c'est pas transcendant. Il manque ce petit grain de folie que va lui trouver Terry Gilliam quand il va faire Las Vegas Parano, quoi. Donc c'est un film très intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'adaptations de Hunter S. Thompson, en fait, et que le film est méconnu. Mais c'est pas le grand film attendu sur Hunter S. Thompson, qui reste quand même Las Vegas Parano. À signaler, alors dans les bonus, il y a l'ami Jean-Pierre Dionnet, hein, mais surtout, il y a un portrait de Bill Murray par Yael Sada, qui est auteur du livre, hein, Bill Murray, Comment c'est sans moi, qui est vraiment très, très intéressant. Voilà. Donc... un film particulier que je vous conseille de découvrir, parce que moi, personnellement, je l'ai découvert à l'occasion de cette sortie chez Elephant Film, que ce Where the Buffalo Roam. Autre film particulier, très singulier des années 80, qui est proposé par Elephant Film, que je ne connaissais pas du tout, alors qu'il est sorti en 1983 en France. Hein, c'est un film de Jack Fisk, là encore un film de comment dire, alors pas forcément de producteur, mais d'un type qui faisait le métier de concepteur de prod, en fait, et qui va bosser, par exemple, sur des films aussi incroyables que le Badlands de Terrence Malick, hein, la balade sauvage, film sublime, et qui est le mari de Sissy Spacek, l'héroïne de Carrie. Et donc là, il décide de mettre en scène sa femme dans ce film qui s'appelle donc L'homme dans l'ombre, ce film qui sort en 83. Dans le rôle, on est en 1944 au Texas, à Gregory, dans le rôle d'une femme divorcée qui élève seule ses deux enfants et qui est standardiste à domicile, là où sont centralisés les appels du front, des soldats, de leur famille. Elle est donc à la fois, elle est un peu déprimée quand même, et puis elle est aussi un peu harcelée parce que cette belle jeune femme seule, alors, du coup, qui jouit d'une réputation de femme facile puisqu'elle a divorcé et que ça ne se fait pas en 1944, et harcelée par des rednecks, quoi, enfin des types pas sympathiques du tout. Et puis, il y a autour de la maison quelqu'un qui règne, qui tourne autour de la maison comme ça, qui est complètement défiguré, cet homme dans l'ombre. Voilà. Et heureusement, il va y avoir un petit rayon de soleil interprété par Eric Roberts, tout jeune Eric Roberts, beau comme un camion tout neuf, il était magnifique, il était tout jeune, qui fait un marin en permission, qui va devenir l'ami des enfants et qui va sympathiser avec Nita. Alors le film est assez assez étrange. C'est vraiment un film très, très étrange. Au départ, c'est plutôt une chronique, pendant les deux tiers du film, qui va rappeler des films un peu à la Bogdanovitch, La dernière séance, tout ça. Plutôt une chronique d'une petite ville au Texas pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, Et puis après, une nuit, il y a de la foudre. Comme par hasard, ce jour-là, que débarque le marin, et elle est foudroyée, évidemment, par ce... foudroyée d'amour pour ce marin interprété par Eric Roberts, qui devient évidemment son amant, qui devient aussi une sorte de père bis pour les enfants. Et le film, dans sa dernière partie, va basculer presque dans le film d'épouvante, d'horreur, avec cet homme défiguré dans l'ombre qui va intervenir, on ne vous dit pas dans quelles circonstances, ces hommes qui vont venir agresser Sissi Spacek. Et ce qui fait que le film... Alors, il y a des super acteurs, il y a R.J. Armstrong qui fait le patron de la compagnie de téléphone pour laquelle travaille Nita. Il y a Sam Shepard, super acteur, là, qui a un rôle... pas vous dire lequel, sinon je vais être obligé de déflorer l'intrigue. Mais en tout cas, le film est assez étonnant parce que ces deux voyous là, ils vont finir par être confrontés à quelque chose que personne n'avait vu venir. Enfin, si, un peu quand même, un peu de la fin, mais bon, un peu à l'avance. Mais du coup, ça donne un film bancal, singulier, mais qui n'est pas dénué de charme, qui est une vraie curiosité. On sent que le film a le cul entre deux chaises, mais demeure tout de même une vraie curiosité portée par une Sissi Spacek. Bon, bah, elle n'est pas tante comme ça, parce que c'est vraiment une très bonne actrice, qu'on ne cesse de redécouvrir. Et donc ça, c'est disponible chez Elephant Film, ça s'appelle « L'homme dans l'ombre ».
Écoutez Culture Prohibée spéciale années 80.
Toujours chez Elephant Film, alors là, on va aller sur un film australien. Alors, film culte, surtout en Australie, et qui est devenu culte dans le monde entier, hein, ce film sorti en 1983. Ce film, quand même, signé du réalisateur des Traqués de l'an 2000, il aura tout fait, Brian Trenchard-Smith, dans sa carrière. Il a réalisé, je pense, quasiment tout ce qu'on lui proposait. Il disait pas non, Brian Trenchard-Smith. et qui est devenu culte aussi parce que ben, dans le rôle, l'un des trois rôles principaux, il y a Nicole Kidman qui a 15-16 ans au moment de la sortie du film. Et bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ben, c'est une histoire, c'est une histoire très simple. Enfin, je veux dire, c'est une histoire typique des années 80. Alors, est-ce que, Damien, tu sais ce que c'est qu'un BMX ?
Tout à fait.
Parce que le BMX, dans les années 80, quand on a mon âge, c'est-à-dire de la cinquantaine...
C'est un vélo, on est d'accord.
C'est vrai, c'est un vélo cross, mais c'était le summum, le top du top. D'ailleurs, là, dans le film, ils ont des BMX de ouf. Hein. Ils ont des super modèles de BMX. Hein. Il y en a un Diamondback rouge que j'aurais bien aimé avoir au même âge que les protagonistes. Il fut une époque où c'était la mode dans le monde entier. Tout le monde faisait du vélo cross, du BMX, avait des ralegs. Voilà, c'était le truc qu'il fallait absolument avoir. Sinon, t'étais pas dans le coup. Voilà. Donc là, Nicole Kidman et ses amis sont vachement dans le coup. C'est des ados des années 80. Et qu'est-ce qu'ils font, ces ados des années 80 ? Ben, ils mettent en colère une bande de truands. Alors, c'est plutôt une bande de truands un peu à la manque, parce que bon, ils vont simplement s'énerver, ces truands, parce que bon, ben, le gang des BMX va leur piquer leur talkie-walkie, en gros, quoi, un truc comme ça, quoi, une cargaison de talkie-walkie. Bon, le talkie-walkie, tu sais ce que c'est, Damien, le talkie-walkie ?
Oui, j'en avais petit.
Ah, voilà. Ben, le talkie-walkie, c'était aussi le truc ultime dans les années 80. Si t'avais un BMX plus un talkie-walkie, bon, t'étais au top de la popularité au collège. Alors là, il n'y avait pas de souci. Même au lycée, d'ailleurs. Hein, t'étais un dieu vivant. Voilà. Donc, ben là, nos petits jeunes, ben, évidemment, alors, c'est clairement un film pour enfants. Hein. Ils sont confrontés dans cette comédie d'aventure. C'est pas le club des cinq, c'est le club des trois, là, deux garçons, une fille, et puis ils sont confrontés à ces bandits un peu d'opérette, quoi. Alors évidemment, ce n'est pas, ne vous attendez pas à quelque chose du niveau des Goonies de Richard Donner, hein, on en est loin. C'est une petite friandise assez sympathique. Ou alors qu'on peut voir du coup en support HD. Bon, du coup, c'est un peu fatal parce que là, on voit bien que les doublures, c'est pas du tout, surtout la doublure de Nicole Kidman. C'est toute petite et fluette. Imaginez, déjà, déjà, c'est un petit gabarit, mais alors imaginez, toute jeune, elle est encore plus petite et fluette. Et alors, le mec, il la double, il doit faire deux fois son poids. C'est un peu visible, mais c'est pas grave. Il a une belle petite perruque rousse, on va dire. Voilà, ça lui va bien. Mais c'est sympathique, c'est assez inoffensif. Hein. C'est une petite sucrerie 80s. Vraiment culte, donc en Australie, hein, comme je vous l'ai dit. Je pense que BMX Bandit ne peut s'apprécier que si l'on a gardé son âme d'enfant et qu'on a grandi dans les années 80. Voilà. Donc c'est sorti chez Elephant Film. Alors, tout comme est sorti un autre film, comment dire ? Alors, un poil culte à cause de son affiche, en fait, avec un monstre qui sort des toilettes. Et qu'est-ce que c'est que ce monstre ? C'est un Ghoulies, c'est les Ghoulies, ce film. Donc c'est Ghoulies, un film de 85 avec Luca Bercovici, un film d'auteur puisqu'il est également scénarisé par Luca Bercovici, attention. Hein. Donc, et mon cher Damien, c'est un film, alors quand même, il faut le savoir, qui est tourné en même temps que le Gremlins de Joe Dante, donc il n'a pas copié Gremlins en fait. Hein. Il est tourné à la même époque, donc il ne peut pas être soupçonné de l'avoir copié. Par contre, pour la promotion du film, ah ouais, le producteur, lui, va bien voir que Gremlins a bien marché. Et donc, il va tout miser sur les Ghoulies, qui, en fin de compte, les Ghoulies sont qu'une toute petite partie du film qu'on ne les voit pratiquement pas. Voilà.
C'est très bizarre, cette mode qu'on a eue après Gremlins, ou en même temps que Gremlins, de faire plein de films avec des petites créatures, parce que l'un des points forts de Gremlins, c'est qu'on a une créature gentille, au final, qui se retrouve à affronter les autres. Et quand tu regardes tous les autres films qui ont copié Gremlins, bah, le seul truc, c'est qu'ils avaient des créatures méchantes qui s'attaquaient. Et ce film, bah, c'est vraiment un entre-deux, un mélange un peu... un mélange raté entre Gremlins et Puppet Master, alors qu'il a, comme tu l'as dit, il a été fait en même temps que Gremlins. Par contre, il est sorti avant Puppet Master.
Il a le même producteur, Charles Band, ceci peut expliquer cela.
Ça joue sans doute énormément. Toute l'intrigue se passe dans une maison. Allez, c'est simple, l'histoire, à la mort de son père, Jonathan s'installe avec sa petite amie dans le manoir laissé en héritage. Il découvre des ouvrages de sorcellerie qui attisent sa curiosité et se livre alors à d'étranges cérémonies. Au cours de ces rituels, il voit surgir d'inquiétantes créatures, les Ghoulies, et décider à semer la terreur autour d'elles. Il n'est pas très bien, ce film. C'est un truc qui saute assez vite aux yeux. Le jeu d'acteur est pas incroyable. Au niveau du bruitage, c'est pas ouf non plus. Les personnages sont majoritairement des stéréotypes. On a une voix off, moi, qui m'a beaucoup énervé, qui est la voix d'un personnage qui apparaît dès le début, qui empêche un enfant d'être sacrifié, et qui, à plusieurs moments du récit, va revenir pour expliquer que, à ce moment-là, la situation était grave, mais je décidais de laisser faire. Ou un peu plus tard, c'était un point culminant, tout allait basculer, mais je voulais voir quelle décision il allait prendre. Et au final, il revient, il revient en Deus Ex Machina au dernier moment, alors qu'il aurait pu empêcher la catastrophe durant... depuis le début. Alors, c'est un film qui est pas bien, mais qui quand même est extrêmement drôle à regarder. Alors, il a pas que des défauts. Les monstres, en grande partie, sont... Les monstres, c'est du 50-50. Il y a des monstres qui sont très très moches, qui sont très mal faits. Et c'est parce que normalement, je crois qu'il devait avoir Philippe Tippett de base pour faire une marionnette et qu'au final, ça ne s'est pas fait. Donc, on a des marionnettes comme celles qui sortent des toilettes qui sont pas incroyables. Et on a d'autres marionnettes qui sont extrêmement cool. Je pense notamment au clown, à la marionnette de clown que j'aime beaucoup et qui me fait un peu penser à Poltergeist. On a aussi les deux créatures qui servent de serviteurs. L'intrigue, la façon dont elle est avant, je la trouve intéressante parce que c'est quand même quelqu'un qui revient chez lui sans avoir connu véritablement son père, qui commence à s'intéresser à ce qu'il faisait, qui va être pris pour une obsession autour de cette maison, ce qui m'a un peu fait penser à Hellraiser, mais on est dans d'autres proportions. Et à la fin, il y a même un choix au niveau de l'affrontement des deux personnages qui s'affrontent, qui est extrêmement intéressant. J'ai l'impression que c'est un film qui avait plein de bonnes idées, mais qui n'a pas réussi à vraiment les organiser ou bien à les mettre en scène. Et pourtant, c'est un film qui a eu quand même un succès, vu qu'il a eu plusieurs suites derrière. Enfin, il a eu surtout eu des directs ou DVD, mais c'est quand même un film qui a marqué.
Direct ou VHS, même à l'époque, c'était pas du DVD encore.
C'est vrai, direct ou VHS. Mais voilà, c'est un film extrêmement... étrange, peut-être pur produit des films ratés des années 80, je ne sais pas.
Ça s'appelle Goulies en tout cas, voilà. C'est, si vous voulez posséder dans votre vidéothèque ce film qui jouit quand même d'une certaine aura de culte, hein, qui est bien. Le film est d'ailleurs une petite présentation de Caroline Vier qui est assez chouette, qui replace bien le film dans le contexte, qui met en avant, comme toi, un peu les bons points du film, parce qu'il y a des bons points, effectivement. Moi, je dirais que peut-être le principal défaut de ce film, en fait, d'avoir voulu... Parce que Charles Band a produit des trucs super, super bien. Enfin, c'est très fauché, hein. Mais il a aussi produit des trucs super bien quand ça allait jusqu'au bout, c'est-à-dire les premiers Stuart Gordon, les Réanimateurs, Dolls, tout ça, c'est Charles Band, en fait. Mais, et là, le film, on sent qu'il a le cul entre deux chaises, il a envie d'être tout public, et il a... C'est pas par moment, il y a des scènes, on se dit ça va basculer dans l'érotisme, et boum, on arrête juste à temps. À un moment, il y a des scènes aussi, ça va basculer dans la violence, et boum, on arrête aussi juste à temps. Il y a des nains aussi, l'utilisation de nains, qui est une obsession de Charles Band. Il y a des nains dans quasiment une bonne partie des films qu'il produit. J'allais pas dire tous ses films, mais une bonne partie. Là, c'est pareil, il n'en fait pas grand-chose, alors que à la base, ça part pour autre chose. On sent qu'il y a une sorte de melting pot d'idées comme ça qui s'entrecroisent et qu'on n'ose pas vraiment faire un truc vraiment méchant ou voilà. Et c'est vrai que au départ, moi, je m'attendais plutôt à un film de gothique, de truc un peu démoniaque, gothique. Et puis, en fin de compte, ça vrille, ça part un peu dans tout. C'est un peu bordélique ce film, voilà. Donc, en tout cas, c'est un vrai hit de Vidéo Club qui a cartonné dans les années 80, car comme tu l'as dit, il y a eu plein de suites. Donc, c'est de Luca Bercovici. Ça s'appelle Goulies. Et c'est disponible chez Éléphant de Film.
She must be somebody's baby.
Vous écoutez Culture Prohibée. Garder le meilleur pour la fin, avec un film au titre français, ce qui peut être très trompeur. Voilà. Parce que n'hésitons pas à le dire, ce film, c'est un excellent film, c'est sans doute une des meilleures sorties dans celle qu'on a chroniquée là, si ce n'est la meilleure, pour moi c'est le meilleur film ceux qu'on a chroniqué dans l'émission d'aujourd'hui, et qui est un film en plus relativement méconnu en France, voilà. Qui sort en plus pour la première fois en support HD. Alors là, pour les enfants des années 80, c'est celui-là, le fameux film avec Phoebe Cates qui fait une scène de striptease. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que la scène de striptease, elle est montée en parallèle avec autre chose, mais ça, on va en parler quand on va développer le film, qui met une bonne claque à la virilité masculine. Voilà. C'est un film dans lequel on découvre des jeunes acteurs. Donc il y a Phoebe Cates, hein, il y a Sean Penn, complètement foncelé tout le temps, voilà. Il y a Jennifer Jason Leigh qui est toute jeune. Hein. Et donc ce film s'appelle « Ça chauffe au lycée Richmond, Fast Times at Richmond High » et c'est signé Amy Eckerling. Et mon cher Damien, bah c'est la vie au sein du lycée Richmond sur une année, hein, évidemment. Le titre est assez simple, il cache rien. Mais mon cher Damien, quelle bonne surprise.
On aurait pu s'attendre à une comédie bas du front et pas du tout. Et c'est parce que les personnages qui sont mis en avant, même ceux qui sont légèrement qui peuvent tirer vers la caricature, en fait, sont profondément humains. Et tous les personnages sont en quête de quelque chose, sauf Sean Payne, qui trace sa voie totalement défoncée, mais qui a quand même une relation, une confrontation avec un professeur d'histoire qui ne comprend pas, en fait, la direction que prend Sean Penn. Mais en effet, il y a Jennifer Jason Leigh qui est incroyable, qui joue en fait une jeune lycéenne qui est en pérégrination amoureuse et qui en fait se cherche un peu déjà à la fois dans ses sentiments mais au niveau aussi physique. Et on a tout un rôle de l'amour, de la façon dont à cet âge-là on essaye d'aimer, qui est très beau, qui est très bien fait. En fait, c'est un film qui arrive super bien s'en sortir sur plein d'aspects et qui arrive à être réaliste, à parler d'amour, de sexe, de travail, mais aussi d'avenir, mais d'une perfection et d'une drôlerie qui est pour lequel il faut le féliciter. Il y a peu de personnages en fait qui sont inintéressants parce que tous ont des situations qui seront soit drôles, soit triste. Et au final, on a un environnement extrêmement réaliste qui dépeint des intrigues qui peuvent parfois être abusées, mais qui finalement tombent toujours juste. C'est vraiment une excellente surprise. Ça me fait penser un peu à l'ancêtre. C'est un teen movie, mais pour moi, je le vois un peu comme un ancêtre de American Pie qui, aujourd'hui, est très mal vu parce qu'à l'époque, il était juste vu pour la blague. Parce que ça parlait de fesses, mais qui avait quand même une réflexion au niveau de la sexualité des jeunes hommes à cette époque, où on leur imposait l'idée de vérité, donc de faire l'amour avant de quitter le lycée. Et ici, on retrouve un peu une version d'American Pie. Ici, on retrouve un peu son ancêtre, version féminine et plus réfléchie, plus posée. Mais encore une fois, c'est compliqué d'en parler parce qu'il y a tout un aspect comédie, notamment avec Forest Whitaker qui joue un genre de football américain et qui va retrouver sa caisse défoncée à cause d'un autre personnage qui est constamment défoncé, qui va réussir à lui cacher que c'est lui qui a bousillé sa caisse et qui va accuser l'équipe de foot adverse, qui va donner une séquence de football avec toute la rage de Forest Whitaker qui va défoncer un à un les joueurs adverses. Mais voilà, c'est vraiment un film qui m'a surpris.
Universal Pictures presents everything you always wanted to do in high school with everyone you always wanted to do it with.
Hey, bud, let's party.
They're the students of Ridgemont High. Brad Hamilton, the fast food king.
I shall serve no fries before their time.
It says 100% guaranteed, you moron.
Mister, if you don't shut up, I'm gonna kick 100% of your ass.
Charles Jefferson, a man with a mission.
Oh, gnarly!
Linda Barrett, not exactly the girl next door.
Awesome! Totally awesome!
And Jeff surfs up Spicoli.
People on lewds should not drive.
My skull. I'm so wasted.
See Fast Times at Ridgemont High.
Quand je te disais tout à l'heure que comment dire, Art Linson, c'était un bon producteur. Même s'il a loupé son adaptation de Hunter S. Thompson, là, c'est lui qui produit. Il flaire le bon coup, en fait. Hein. Il y a le bouquin. Parce qu'en fait. Le bouquin, c'est celui d'une légende, à la base. Hein. C'est un bouquin de Cameron Crowe. Cameron Crowe, c'est celui qui a bossé pour Rolling Stone Magazine tout jeune, qui a écrit le fameux et qui a donné le très bon film Almost Famous, presque célèbre, et où il va, très jeune, se balader dans le monde entier avec des groupes de rock, partager leurs tournées, tout ça, et en étant adolescent, en fait. Et quand il va revenir, il aura la petite vingtaine, et sous un autre nom, parce que du coup, il est célèbre. Il va retourner au lycée pour terminer son lycée, pour avoir ses diplômes et tout. Et quand il finit son lycée, il en tire un bouquin. C'est quelque part ses mémoires. Et c'est de là que c'est de ce bouquin que lit Art Linson et qui tout de suite achète les droits et dit ça va faire un film du tonnerre. Et c'est Art Linson qui décide de mettre en forme ce film, qu'au départ, il veut confier à David Lynch, assez étonnamment. Et puis, ça finit entre les mains d'Amy Eckerling et Cameron Crowe. Lui, il est à fond soutien d'Amy Eckerling. Il faut dire qu'Amy Eckerling, elle est vachement jolie et que... Non, mais attention, Cameron Crowe, c'est un séducteur hein, et qui tombe sous le charme de cette femme qui a beaucoup de charme et surtout qui a une vraie personnalité. C'est-à-dire que c'est pas un hasard, ce film. Je veux dire, Amy Eckerling, il faudra un moment réhabiliter sa filmographie. Enfin, elle a fait un autre film culte qui s'appelle Clueless, qui est vraiment pas connu en France, qui c'est pareil sur les films. Pour moi, Amy Eckerling, c'est un peu le pendant féminin, alors en un peu plus léger, mais pas tant que ça, de Larry Clark. Sur les adolescentes surtout, mais enfin, en tout cas, elle a un regard très très juste sur ce qu'est l'adolescence. Alors là, le film quand même... met en scène des trucs assez incroyables parce que le personnage Jennifer Jason Leigh se retrouve enceinte, très très jeune. Il y a la question de l'avortement qui est assez passionnante. C'est rare de voir ça traité dans des films vendus pour être des comédies fun comme ça. Il y a ce personnage de Phoebe Cates qui est le fantasme de tous les garçons.
elle est très belle, elle fait plus mature, elle fait jeune femme. Bon, en même temps, dans le film, je pense qu'elle a... c'est une jeune femme, en fait. C'est plus une adolescente quand elle joue le rôle. Et vous savez, Phoebe Cates, c'est la copine du héros de Gremlins, dans Gremlins 1 et 2, voilà, pour vous remémorer qui est Phoebe Cates. Et Phoebe Cates, en fait, elle fait croire qu'elle est cette jeune femme mature, et on se rend compte, en fait, qu'elle est dépressive et pleine de solitude, et qu'elle est malheureuse, en fait. Sauf que c'est pas du tout l'image qu'elle renvoie. Et d'ailleurs... cette scène de striptease là, elle est mise en c'est une scène fantasmée par un garçon, c'est une scène onirique. Hein. Elle est mise en balance de l'autre côté, parce que ce garçon, en fin de compte, il fantasme cette scène, mais il se révèle, comment dire, c'est mis en parallèle avec une scène peu reluisante pour le garçon. On va dire ça comme ça. Voilà, il faut voir le film. Je vais pas vous raconter toute l'histoire. Il y a aussi Nicolas Cage dans le film, dans un tout petit rôle, qui est tout jeune. Parce qu'en fait, il faut le dire, hein, Amy Heckerling, elle est vraiment super douée. C'est elle qui va aller chercher tout ce jeune casting là, avec l'aide d'un chasseur de tête évidemment, mais c'est quand même elle qui va découvrir tous ces acteurs. Et par exemple, si on prend le personnage de Sean Penn, il y a tout un échange avec son prof là, qui devient une sorte de jeu, de délire. C'est très très drôle, c'est vraiment, vraiment très bon. Et le film va plus loin dans sa version intégrale. Il y a une scène de nudité frontale avec, lors des rapports entre la fille et le garçon, qui met sur un point d'égalité la représentation, parce qu'on voit Jennifer Jason Leigh nue, ce qui est assez dérangeant parce que c'est une adolescente, mais on le voit lui aussi nu. Mais nu totalement, frontalement. Sauf que ça va être coupé pour la sortie du film. Et ça, on peut le découvrir dans les bonus du film. Parce qu'il y a vraiment de très bons bonus. Alors, c'est assez rigolo, d'ailleurs, parce que la réalisatrice de Look Who's Talking, de Clueless, de Fast Time at Ridgemont High, hein, Amy Heckerling, donc, quand elle parle du film, qu'on lui pose des questions sur ces scènes érotiques qu'il y a dans le film, elle répond « Non, mais c'est normal, c'est les années 80, on faisait que des films avec des gens à poil. » Sauf que non, c'est pas que ça. Enfin, le film raconte autre chose. C'est un film qui parle vraiment de la sexualité adolescente. C'est un film qui parle vraiment du questionnement sur la vie, sur l'avenir que peuvent avoir des adolescents. Moi, je trouve que c'est vraiment une pépite à découvrir. Moi, je veux bien que le film de l'année 2023 ce soit Barbie, mais si vous voulez voir un vrai film féministe, vous voyez plutôt celui-là, hein, qui pose quand même un regard nettement plus juste, féroce. C'est vraiment, pour moi, ce film, ça a été une véritable découverte. Moi, je le connaissais pas. En fait, je connaissais pas ce film. Je l'ai découvert grâce à Éléphant de Film. C'est un film qui est ultra culte aux États-Unis. Pas que de par son casting, comme d'ailleurs Look Who's Talking et Clueless, hein, qui sont cultes aussi aux États-Unis, hein, qui n'ont pas vraiment atteint ce... Alors Clueless est sorti en France, je me rappelle quand il est sorti au cinéma, mais qui n'a pas atteint ce degré de popularité, en tout cas chez nous. Il faut vous rattraper et il faut à tout prix voir Ça chauffe au lycée Ridgemont de Amy Heckerling, qui est donc sorti chez Éléphant Film et que nous vous conseillons vivement, ardemment, il faut le voir absolument. C'est la grande découverte des films que nous avons chroniqués dans cette émission. Just to talk to C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the least, je vais bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.